c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier.
Mais c'était hier, tu étais ici hier. On a du mal à s'y faire, hein.
Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur.
Ou un jour passé.
Ben allô la gang, salut les voyageurs du temps, bienvenue au podcast à voyager dans le temps, édition de novembre 2018. Aujourd'hui, ben, on fait un retour en arrière, on se dirige en 1979 et pourquoi j'ai choisi cette année-là? Ben, tout simplement parce que c'est l'année de naissance de ma conjointe Katia, donc c'est son anniversaire ce mois-ci. J'y dédie l'émission d'aujourd'hui en lui disant que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je l'embrasse très, très, très fort. Alors, on commence. Voici l'année 1979 et on part avec le 15 janvier où a été créée au Québec la loi sur la protection de la jeunesse. Cette loi-là a été créée à l'occasion de l'année internationale de l'enfant. Elle établit les droits des enfants et des parents ainsi que les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse au Québec. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 16 décembre 1977. Le début de son application, le 15 janvier 1979, a donné lieu à la création de la Direction de la protection de la jeunesse, maintenant intégrée dans les centres jeunesse du Québec. La loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée en 1984 et en 1994, également en 2006. La loi confie l'application des mesures qu'elle met de l'avant à un directeur de la protection de la jeunesse, le directeur de la DPJ, s'acquitte de son mandat par des autorisations. La loi définit les pouvoirs, rôles et fonctions des personnes autorisées. C'est la structure administrative des équipes et services constituées de personnes travaillant sous l'autorité du directeur de la protection de la jeunesse, que l'on appelle communément la direction de la protection de la jeunesse. Maintenant, du 15 janvier, on se transporte au 21 mars, toujours de l'année 1979, où Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier présentent pour la première fois la pièce « Brou » au Théâtre des Voyagements à Montréal. « Brou » est une comédie théâtrale québécoise. L'action se déroule dans une taverne où différents personnages hauts en couleur échangent sur leurs travers. Présentée plus de 3000 fois sur une période continue de 38 ans et vue par plus de 3 millions de spectateurs, « Brou » est considéré comme le plus grand succès de l'histoire du théâtre au Québec. Les comédiens de la pièce ont annoncé le 21 mars 2017 la fin des représentations de la pièce mythique en avril. La dernière représentation a lieu le 22 avril 2017. Le terme « brou » désigne la mousse de la bière au Québec. Les événements de la pièce se déroulent la veille du jour où les tavernes au Québec seront obligées par la loi d'admettre les femmes. Les personnages y affluent pour célébrer cette tradition qui s'opère avec la montée du féminisme. On prend un petit break, on s'en va côté musical avec, en 79, c'était une belle année, autant au niveau de l'actualité qu'au niveau musical. Dans les prochaines secondes, on aura deux pièces d'ailleurs qui confirment que cette année-là, il y a eu des hits incontournables. On va avoir la formation Lips avec la pièce Funky Town, mais auparavant, pourquoi pas Village People et la pièce In the Navy? C'est l'US Navy, oui, qui souhaitait utiliser une chanson lors d'une campagne de recrutement télé et radio diffusée. Considérant le succès du groupe Village People, elle contacte le manager Henri Bellolo, qui donne son feu vert pour le projet sans rétribution particulière, demandant uniquement que la Navy l'aide à tourner le clip. Moins d'un mois après, Village People arrive à la base navale de San Diego. La Navy met à leur disposition la frégate USS Risoner, qui il y a quelques avions également, l'équipage et en fait tout ce beau monde-là sera inclus dans l'enregistrement du vidéo qui se déroule en 1978. Toutefois, à la suite d'une vague de protestations contre l'usage des fonds publics pour mettre au point une vidéo commerciale, la Navy renonce à sa campagne promotionnelle. Il s'agit du dernier single du groupe à entrer dans le top 10 des charts américains. Alors voici Village People et In the Navy. We'll be right back.
Sail the seven seas. In the Navy. Yes, you can put your mind.
L'air du disco dans les années 70, on vient de se le prouver avec la formation Lips, la pièce Funky Town. C'est une chanson disco-funk, ça a été écrit par Steven Greenberg. C'est un single extrait de leur premier album qui s'intitulait Mouth to Mouth. Il s'agit du principal succès du groupe parvenant en tête des hit-parades internationaux et aussi certifié disque platine. Il y a à peu près 2 millions de singles qui ont été vendus. Les paroles sont chantées par Cynthia Johnson. Ça évoque une ville imaginaire nommée Funky Town où, bien sûr, elle aimerait se rendre et lui confère une sorte d'énergie pour bouger et danser continuellement. Cette chanson est généralement considérée comme l'un des grands classiques de la musique disco. Elle a fait l'objet de nombreuses reprises, dont une par le groupe australien Pseudo Echo, qui fut aussi un succès. La pièce est aussi utilisée dans plusieurs films, jeux vidéo ou clips publicitaires. On va tout de suite poursuivre avec des événements qui sont passés en 1979 et on va parler du 22 mars où la Ligue nationale de hockey accepte l'entrée de 4 villes dont celle de Québec dans la Ligue où ils pourront jouer l'automne prochain. À cet effet, il y a un repêchage d'expansion qui a lieu afin d'inclure les clubs de la MH. Après presque une décennie de rivalité avec la LNH, l'Association mondiale de hockey finit par annoncer la fin de ses activités au terme de la saison 1978-1979. Il ne restait plus que 6 clubs et on voyait déjà depuis 1976 que la plupart d'entre eux étaient au bord de la faillite et forcés d'offrir des contrats faramineux aux joueurs pour les éloigner de la LNH, comme celui d'un million de dollars offert à Bob et Hull par les Jets de Winnipeg. Des changements constants de propriétaires, des relocalisations de clubs et le manque de support des amateurs impliquent que le 22 mars 1979, la LNH accepte le transfert de 4 des 6 rescapés de l'AMH, soit les Nordiques de Québec, les Oilers d'Edmonton, les Jets de Winnipeg et les Whalers de la Nouvelle-Angleterre, renommés après moult insistances de la part des Bruins de Boston, les Whalers de Hartford. Les deux formations restantes, les Bulls de Birmingham et les Stingers de Cincinnati, furent payées pour être dissoutes. Le 28 mars, il y a un incident à la centrale de Three Mile Isles à 4h du matin. Le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Three Mile Isles en Pennsylvanie tombe en panne. Quelques instants plus tard, un technicien désamorce le dispositif de refroidissement de secours par inadvertance. La température grimpe dangereusement au cœur du réacteur nucléaire qui, lui, commence à fondre. Des barrettes d'uranium se brisent, la vapeur d'eau radioactive s'accumule et menace de faire exploser la structure. Alertés, les autorités américaines font évacuer les femmes enceintes et les enfants dans un rayon de 8 km. 1,5 million de litres d'eau contaminée seront déversés dans la rivière Susquehanna pour accélérer le refroidissement du réacteur. La menace d'explosion durera plusieurs jours. Pour les États-Unis, c'est le plus grave accident nucléaire jamais survenu. Quand, 6 ans plus tard, il a été possible de pénétrer dans l'enceinte, une caméra introduite dans la cuve a montré qu'une partie significative du combustible avait fondu, mais qu'il n'avait pas traversé la cuve. Le corium s'est stratifié en fond de cuve sans provoquer d'explosion. Encore de la musique? Encore du disco, on s'offre un doublé cette fois-ci de la populaire chanteuse Donna Summers. On aura la pièce Hot Stuff. Mais avant ça, pourquoi pas la pièce Bad Girl? C'est une chanson par Donna Summers sortie en juin 1979. La chanson est le deuxième single extrait de l'album Bad Girl. Elle est écrite par Donna Summers elle-même, Eddie Hawkinson, Bruce Sudano et Joe Bean Exposito. La musique a été composée par Giorgio Moroder et Pete Bellotte. La chanson est un titre disco aux influences pop. L'inspiration de la chanson est venue après que l'une des assistantes de Donna ait été offensée par un policier qui pensait qu'elle était une prostituée. Le fondateur du label Casablanca Records, Neil Bogart, voulait attribuer la chanson à Cher, mais Donna a décidé de la faire après l'avoir refusée. Elle l'a interprétée avant de la chanter quelques années plus tard. Alors voici Donna Summers, Bad Girl. Thank you. Avec plaisir, on a eu Donna Summers en doublé et à la seconde, on vient d'entendre la pièce Hot Stuff. C'est une chanson qui est sortie en avril 79 sur le label Casablanca Record. C'est le premier single extrait de son 7e album studio appelé Bad Girl. On dit que jusque-là, Summers était principalement associé à des chansons disco, mais Hot Stuff, lui, ben, il montre d'importantes influences rock, y compris un solo de guitare de Jeff Baxter, qui lui était un ex-guitariste du groupe Steely Dan et Doobie Brothers. C'est l'un des titres les plus populaires de Summers, basé sur des résultats impressionnants au Hot 100. Hot Stuff s'est retrouvé en tête de nombreux classements, de meilleures ventes de singles dès sa sortie, et certifié disque platine en Amérique du Nord. En France, ben, le single se vend à 317 000 exemplaires. En 97, Hot Stuff est devenu une chanson mémorable grâce au film The Full Monty. En 2015, utilisé également dans un film de Ridley Scott, le film Seul sur Mars. On parle toujours de avril 1979. J'ai pas de date précise, mais bon, est sorti un jeu vidéo très populaire. Si je vous dis Space Invader, c'est développé par la société japonaise Taito, sorti en 1978 sur des bornes d'arcade, mais vraiment, il a connu son apogée en 1979. Tomohiro Nishikado conçoit et programme le jeu. Il s'inspire de plusieurs médias populaires de l'époque pour réaliser Space Invader, tels que Breakout ou encore La Guerre des Mondes. Considéré comme le premier shoot'em, il est aussi l'un des titres les plus influents et célèbres de l'histoire du jeu vidéo. Le principe est assez simple, c'est de détruire des vagues d'aliens au moyen d'un canon laser en se déplaçant horizontalement sur l'écran. Il fait partie des classiques du jeu vidéo, au même titre que Pac-Man par exemple et d'autres de ses contemporains. Il contribue à élargir l'industrie du jeu vidéo au niveau mondial. On dit que Space Invader rencontre un énorme succès populaire. Après sa sortie au Japon, il aurait entraîné une pénurie de pièces de yens. En 2007, Taito annonce que le jeu a rapporté 500 millions de dollars de recettes depuis sa parution. Le jeu influence beaucoup d'autres titres et connaît plusieurs suites. Il est aussi adapté sur de nombreuses consoles, entre autres le Atari 2600, le MSX, le NES. En 1980, la sortie de la version pour l'Atari 2600 permet de quadrupler les ventes de la plateforme. On laisse le domaine du jeu vidéo et on va parler un peu de politique où le 4 mai 1979, Madame Margaret Thatcher est la première femme à devenir Premier ministre en Grande-Bretagne. Les conservateurs remportent les élections législatives en Grande-Bretagne. Pour la première fois, une femme devient Premier ministre de Sa Majesté. Margaret Thatcher mènera une politique de libéralisation avec une détermination inflexible, ce qui lui vaudra bien sûr le surnom de Dame de Fer. Cette politique, qui rendra une certaine prospérité à la moyenne bourgeoisie, accentuera les inégalités sociales. Suite à des luttes internes au sein de son parti, Margaret démissionnera en novembre 1990. Elle est née le 13 octobre 1925 à Grantham et est décédée le 8 avril 2013 à Londres. Elle est la fille d'un épicier et d'une couturière. Elle est chimiste au Somerville College à Oxford, puis avocate de profession. Elle fait son entrée au Parlement au Royaume-Uni en 1959 et exerce la fonction de secrétaire d'État à l'éducation et aux sciences dans les gouvernements Heath de 1970 à 1974. Elle remporte 3 élections générales consécutives, effectue ainsi le plus long mandat ininterrompu de Premier ministre au Royaume-Uni depuis Robert Jenkinson, qui lui est en œuvre de 1812 à 1827. Elle est considérée comme étant la plus renommée des dirigeants politiques britanniques depuis Winston Churchill. On va tout de suite se plonger dans l'univers musical avec Robert Palmer dans les prochaines minutes, mais tout de suite, voici la formation Electric Light Orchestra, donc la formation Hello. On va entendre Don't Bring Me Down, c'est tiré de l'album Discovery, sorti en 79. Elle est également parue en single avec Dreaming of 4000 en face B, parce qu'on se rappellera qu'à cette époque-là, c'était encore les 45 tours avec un côté A et un côté B. Le single se classera 3e au Royaume-Uni, 4e aux États-Unis. C'est un des plus grands succès du groupe. Alors voici Hello et Don't Bring Me Down! We'll be right back. Une bonne pièce, Rock and Roll de Robert Palmer, la pièce Bad Case of Loving You. Une chanson écrite et enregistrée à l'origine par Moon Martin en 1978. Par contre, elle a été chantée un an plus tard par Robert Palmer et c'est devenu un de ses hits incontestables, Bad Case of Loving You. On continue-tu? Ben ouais, pourquoi pas? On va parler du 14 mai 1979. On parle de physique. La physicienne Yvonne Choquet-Bruhat est la première femme élue à l'Académie des sciences. Elle est née le 29 décembre 1923 à Lille. C'est une mathématicienne et une physicienne française. Ses travaux se situent à la frontière des mathématiques et de la physique. Elle porte notamment sur les mathématiques de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Elle est d'ailleurs connue pour avoir apporté la première preuve mathématique de l'existence de solutions aux équations d'Einstein. Ses travaux sont utilisés par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Elle se marie une première fois avec le mathématicien Léonce Fourès et de cette union naît une fille qui se nomme Michèle Fourès. Elle épouse en seconde noce le mathématicien et académicien des sciences Gustave Choquet, avec qui elle a deux enfants, Geneviève, et le neurobiologiste Daniel Choquet. Elle est titulaire de nombreux prix mathématiques et de décorations honorifiques. Le 25 mai 1979, Ridley Scott, hein, ça vous dit quelque chose ça? Si je vous parle de Alien, ben oui, il m'enseigne l'hideuse créature extraterrestre Alien. C'est en effet l'horreur qui se mêle ici à la science-fiction. À bord d'un vaisseau de retour vers la Terre, un équipage est menacé par une créature inconnue, particulièrement meurtrière. Mue par une intelligence supérieure, elle viendra à bout de la quasi-totalité des voyageurs. Donc, terreur, suspense, environnement clos et grande interprétation sont les meilleurs ingrédients de cette recette de science-fiction. Alien, le huitième passager, remportera d'ailleurs un succès mondial. Le succès du film a engendré une franchise dont trois suites directes appartenant à la saga Alien, où on retrouve bien sûr l'héroïne principale Ellen Ripley en confrontation avec les mêmes créatures, appelées par la suite les xénomorphes. En 2012, Ridley Scott a réalisé Prometheus, initialement prévu comme une préquelle directe à Alien, mais le projet est finalement présenté comme étant une histoire indépendante, toutefois située dans le même univers. Sa suite directe, Alien Covenant, raconte les origines de la création du xénomorphe tel qu'on la connaît avant les événements du premier Alien et renoue avec l'objectif initial, à savoir servir de préquel. En musique, je vous offre dans les prochaines secondes à Amy Stewart avec Knock on Wood. Donc on va refaire un petit retour dans le disco encore, mais auparavant, voici Anita Ward avec Ring My Bell. C'est une chanson parue en 79. Elle était initialement écrite pour Stacy Latissa, mais lorsqu'elle signe chez un autre label, il fut demandé à Ward de chanter ce qui devient son seul succès majeur. Ring My Bell a été reprise par de nombreux artistes depuis sa première sortie, notamment Blondie, DJ Jazzy, Jeff and the Fresh Prince, Henley, Tori Amos, Blood Sister, bref, il y en a une panoplie. Elle a été remixée également à de multiples reprises et est considérée comme un classique de la période disco. Alors voici Anita Ward, Ring My Bell! Oh yes, ça donne le goût de danser, de s'amuser. C'est une chanson de party. On vient d'entendre Amy Stewart et Knock on Wood. Une chanson de musique écrite et composée par Steve Cropper et Eddie Floyd, interprétée par Floyd à l'origine. C'est sorti en single sur le label Stax en 1966 et se classe 28e dans le Billboard Hot 100. Cependant, la version qui obtient le plus de succès, c'est celle enregistrée en 79 par Amy Stewart. Elle est revisitée dans le genre disco, la chanson atteint le sommet des charts aux États-Unis et au Canada. On va parler d'un décès important qui est survenu maintenant le 11 juin 1979. C'est la mort de l'acteur John Wayne, de son vrai nom Marion Morrison. C'est un acteur, réalisateur et producteur américain né le 26 mai 1907 à Winterset, en Iowa. Il est mort à Los Angeles. On dit qu'au cours de ses 50 ans de carrière, il a joué dans des films policiers, des films de guerre, quelques comédies romantiques. Mais c'est dans ses nombreux westerns que John Wayne s'est réellement imposé, et particulièrement sous la direction de deux réalisateurs, dont John Ford, qui a réalisé entre autres La Chevauchée fantastique, Le Massacre de Fort Apache, La Charge héroïque au Rio Grande, pour nommer que ceux-là. Il a tourné également plusieurs films avec Henry Hathaway, dont 100$ pour un shérif, qui lui a valu en 1970 l'unique Oscar de sa carrière. En 1960, il est passé derrière la caméra pour réaliser une fresque historique d'envergure, soit Alamo, relatant les derniers jours de Davy Crockett et ses compagnons lors de la guerre d'indépendance du Texas. 8 ans plus tard, il a co-réalisé Les Bérets Verts, film engagé justifiant l'intervention américaine au Vietnam. Ces deux réalisations ont reflété l'engagement personnel de Wayne. Il était, entre autres, un républicain et un ardent patriote. Classé 13e plus grande star de légende par l'American Film Institute en 1999, John Wayne a été certainement un des acteurs les plus représentatifs du western, une incarnation à lui seul de l'Amérique conquérante. Surnommé The Duke, le Duc, il reste toujours aujourd'hui, grâce à ses films, le symbole d'une certaine virilité. Il a interprété ce rôle d'homme viril, dur, solitaire et un peu machiste tout au long de sa carrière, ce qui lui fit déclarer un jour « J'ai joué John Wayne dans tous mes films et ça m'a plutôt pas mal réussi ». Le 29 juin 1979, maintenant, ici même au Québec, c'est la fusion de la Banque canadienne nationale et la Banque provinciale du Canada sont devenues des banques de grande taille avec des actifs de 9 et 6 milliards de dollars respectivement. Quoiqu'ayant encore toutes deux une grande partie de leurs opérations concentrées au Québec, elles développent activement plusieurs affaires à l'échelle canadienne et internationale depuis une dizaine d'années. C'est alors qu'elles conviennent d'unir leurs forces pour réaliser l'une des plus importantes fusions dans l'histoire bancaire mondiale et former la Banque nationale du Canada. Ceci leur permettra d'obtenir des économies d'échelle et d'éliminer les duplications d'efforts dans leur marché traditionnel. Les ressources considérables ainsi libérées et réunies les placeront dans une meilleure position concurrentielle par rapport aux plus grandes banques du Canada et du monde, afin de fournir des services bancaires et financiers de meilleure qualité à toute la gamme de leur clientèle. En musique encore, un autre doublé, disco, rock. Je vous l'ai dit, en 79, ce fut une belle année musicale. J'ai à vous offrir la formation Kiss avec I Was Made for Loving You. Mais auparavant, pourquoi pas Patrick Hernandez avec Born to be Alive. C'est le premier single extrait de son premier album studio et qui, s'appelait Born to be Alive. La chanson a été écrite par Patrick Hernandez et produite par Jean Van Loo. Le single a rencontré un succès mondial à l'époque, notamment en Europe, où Born to be Alive se classe numéro 1 en Autriche, en Suède, en Norvège et en France. Born to be Alive est le premier single et le seul grand succès du chanteur français qui affirme dans son livre Alive qu'il est le troisième titre le plus vendu de l'histoire de l'industrie musicale. Le single a obtenu 56 disques d'or dans 25 pays. Au total, 27 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Il rappelle également que le single lui rapporte en droit d'auteur entre 800 et 1500 euros par jour. Alors voici Born to be Alive.
Born to be alive. Don't you I'm not afraid to
oui, monsieur, I was made for loving you, baby! La formation hard rock américaine Kiss s'est originellement enregistrée sur leur album Dynasty qui est sorti en 1979. Elle est également enregistrée comme face A de leur premier single sur un 45 tours. Aux États-Unis, le single se classe à la 11e position au Hot 100 dans la semaine du 11 août. Elle est certifiée disque d'or par la Recording Industry Association of America le 16 août 1979. Au Canada, le single prend la première position et est récompensé par un disque d'or le 1er août 1979. Le 1er juillet 1979, la compagnie Sony, lance le Walkman. La présence de Sony sur ce marché était telle que le mot Walkman est devenu un terme générique pour désigner les baladeurs de ce type. Littéralement, ce terme anglais inventé au Japon et composé de Walkman exprime le fait qu'une personne puisse utiliser l'appareil tout en se déplaçant. Ce tout nouveau lecteur de cassettes portables est mis sur le marché japonais en 1979 et le nom Walkman est proposé par Kozo Oshun, le directeur du développement, en référence aux produits précédents de la marque. Le stock initial est liquidé en moins d'un mois et Sony se prépare à porter son produit sur les marchés européens et américains. Il a décidé de renommer l'appareil Freestyle en Suède, Stowaway au Royaume-Uni et Soundabout aux États-Unis. C'est pendant une visite à Paris que le vice-président de Sony, Akio Morita, décide de garder le nom original car des enfants et des employés lui demandent quand ils pourraient acheter leur Walkman. On revient au Québec, on parle du 3 juillet 1979 où c'est le meurtre de Chantal Dupont, 15 ans, et son ami Maurice Marcille, 14 ans. Il revenait à Longueuil par le pont Jacques-Cartier après une journée au parc d'amusement La Ronde. Gilles Pimparé, 21 ans, et Normand Guérin, 22 ans, attaquent les deux adolescents, violent la jeune fille, attachent une corde au cou de Marcille et jettent les deux victimes dans le Saint-Laurent, 60 mètres plus bas. L'autopsie révèle que les deux victimes étaient vivantes lorsqu'elles ont atteint les eaux et qu'elles sont mortes noyées. Trouvés coupables de meurtre prémédité de Maurice Marcille et Chantal Dupont, Pimparé et Guérin sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de leur peine. Par contre, il y a eu plusieurs demandes de libération conditionnelle de fait par les condamnés et tous ont été refusés. Ça fait déjà 35 ans que Guérin est derrière les barreaux. On va y aller d'une pièce musicale. Il me reste quelques sujets à vous présenter, deux pièces musicales à vous faire entendre. Alors, on y va tout de suite avec une de la formation américaine Sister Sledge. Je vous présente We Are Family. C'est extrait de leur album We Are Family, paru en janvier ou février là, en 1979 aux États-Unis. La chanson a également été publiée et aux États-Unis en avril 1979. C'était le deuxième single tiré de cet album après He's the Greatest Dancer, sorti en février. C'est le plus grand succès du groupe. Aux États-Unis, la chanson a débuté à la 63e place du Hot 100 et rapidement a atteint la deuxième position pour la semaine du 16 juin 1979. Alors voici les Sister Sledge et We Are Family!
just begun to get our share of this world's deal.
Sister Sledge, We Are Family, comme promis en volet musical, et c'est maintenant le temps de vous présenter un dernier sujet d'actualité qui s'est passé en 1979. Le 2 novembre, c'est le gangster Jacques Messrine qui est tué en possession de grenades et d'armes de poing par des policiers. On trouvera d'ailleurs 19 impacts de balles sur son corps. Messrine, né le 28 décembre 1936 à Clichy-la-Garenne, c'est un criminel français ayant opéré principalement en France, mais aussi au Québec, en Espagne, en Suisse, en Italie et en Belgique. Il est surnommé l'homme aux mille visages, ou à tort selon lui, le Robin des Bois français. Par ailleurs, il se donnera lui-même le surnom de Le Grand. Le vendredi 2 novembre 1979 à 15h15, Messrine est au volant de sa voiture avec sa compagne Sylvia Jean-Jacot. Il est encerclé par les hommes de la BRI, porte de Glingacourt à Paris. Un camion bâché qui s'est inséré devant son véhicule dissimule des tireurs qui ouvrent le feu sur lui et sa compagne. 21 balles sont tirées. On retrouvera 18 impacts de balles à haute vélocité sur son corps. Il est tué en possession de grenades, d'armes de poing dissimulées au pied de sa compagne. Sa compagne, d'ailleurs, elle est grièvement blessée par un œil dans la fusillade et son petit caniche est tué. Jacques Messrine est enterré au cimetière nord de Clichy-la-Garenne, la ville qui le vit naître. Sa BMW 528i métallisée, immatriculée 83CSG75, est restée avec les scellés de justice 28 ans dans une fourrière à Bonneuil-sur-Marne avant d'être broyée dans une casse d'attissement le 14 mai 2007. Tout le monde se rappelle bien sûr de Jacques Messrine. Hey la gang, c'est déjà tout pour le podcast à voyager dans le temps, édition de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on se retrouve le mois prochain, déjà le mois de décembre, donc ça commence à sentir les fêtes un peu. Profitez par contre du mois de novembre là, pour magasiner, vous préparer pour ce qui s'en vient. J'espère que d'ici là, ben tout se passera bien pour vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une autre édition. D'ici là, ben on va se quitter en musique avec la formation Eagles et la pièce Heartache Tonight, une chanson écrite et composée par Don Henley, Glenn Frey et Bob Seger. C'est interprété par le groupe rock américain Eagles. C'est sorti en single le 18 septembre 1979. Elle est extraite de l'album The Long Run. Elle se classe en tête du Billboard Hot 100. C'est la cinquième et la dernière fois qu'une chanson du groupe atteint le sommet de ce classement. Elle se classe également numéro 1 au Canada. Alors, bye-bye tout le monde. On se quitte avec les Eagles. Voici Heartache Tonight. Bye!
Somebody's gonna come.